d'Islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlerons de science arabe en contexte islamique, les sciences islamiques au pluriel et ce qui s'est passé dans l'Empire, dont la capitale, entre autres, fut Bagdad, une capitale d'un empire monde. Pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter le professeur Ahmed Jebbar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, historien des sciences, professeur émérite à l'université Lille 1 et vous êtes aussi membre de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Merci de nous faire l'amitié de venir ce matin. En ces temps, là aussi, où ne serait-ce que le vocable islam est anxiogène, il est bon aussi de parler, non pour dire que les arabo-musulmans furent grands, la question n'est pas là, mais aussi de rappeler la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel. Et comme c'est un sujet que vous maîtrisez bien, vous l'enseignez, et c'est aussi votre passion, eh bien nous passons cette heure ensemble à évoquer les différentes disciplines, et puis cette continuité. Il y a une expression latine qui l'évoque le mieux, c'est la translatio studiorum. Comment le savoir, les études, la connaissance, tout cela a pu circuler, et notamment autour du pourtour méditerranéen. Donc Ahmed Jebbar, qu'est-ce qu'on entend par science arabe ?
Si on en revient à la définition des chercheurs, c'est tout ce qui, dans le domaine qu'on appelle aujourd'hui science exacte, auquel il faut ajouter la philosophie et l'astrologie, pour des raisons que j'expliquerai peut-être après. Donc, tout ce qui concernait les sciences et qui était exprimé en arabe, alors exprimé dans le sens, ça a été traduit en arabe, exclusivement, au 8e, 9e siècle, début du 10e, assimilé en arabe, enseigné en arabe, publié quand il y aura des publications en langue arabe. Donc, toute cette production scientifique, bien, nous l'appelons science arabe. Donc, en fait, c'est une définition technique. C'est celle qui nous est parvenue essentiellement en langue arabe, sachant évidemment, et les spécialistes sont les premiers à le dire, que la langue arabe ne sera pas la seule langue qui va exprimer les sciences. Elle sera majoritaire pendant toute la grande histoire de cette civilisation, c'est-à-dire de la fin du 8e siècle jusqu'au 14e, 15e siècle. À partir du 12e, quand même, on voit émerger, se développer le rôle de la langue persane, puis le rôle de l'hébreu au début du 12e, puis le rôle du turc à partir du 15e siècle, le rôle beaucoup plus modeste du berbère, mais effectivement, il a exprimé un peu de science à partir du 16e siècle, d'après nos documents. Voilà. Le latin, je vais le mettre de côté, puisque c'est une langue qui ne va pas être utilisée dans l'espace musulman.
Alors, simplement pour préciser les choses à la fois au niveau de l'aspect technique du mot science arabe, c'est qu'on pouvait être juif, chrétien, mazdéen, zoroastrien, musulman bien entendu, pour peu qu'on s'exprimait en langue arabe et qu'on vivait dans l'Empire, on appelait ça la science arabe ou la science arabe en contexte islamique.
Absolument, absolument. Alors donc quand j'ai devant moi des auditeurs ou bien des personnes d'ailleurs toutes bien intentionnées, qui considèrent que ce qualificatif n'est pas approprié, ben on peut leur proposer d'autres. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est surtout de parler du contenu et de l'histoire de cette aventure humaine. Eh bien, on parle effectivement de sciences en pays d'islam.
Ce sont ce que nous appelons maintenant les sciences exactes, les sciences dures, les sciences pures, parfois selon la prétention des physiciens. On adjoint la philosophie et aussi la médecine.
Absolument.
Bien entendu.
On adjoint la médecine, ça c'est absolument clair, et on adjoint même l'astrologie, je vous le disais au début, parce que on considère que l'astrologie est la fille peut-être illégitime de l'astronomie, parce que l'astrologie ne pouvait se vendre, en particulier auprès des décideurs, auprès des consommateurs de toutes les couches sociales, si elle pouvait préserver, si elle arrivait à préserver ce qu'on appelle son label scientifique. Et donc, accrochée à l'astronomie, qui elle a un label scientifique indiscutable, l'astrologie pouvait être acceptée parce que elle utilisait effectivement les techniques scientifiques des mathématiques et de l'astronomie. Maintenant, elle est basée sur un postulat qui se discute, qui était très discuté, qui était très critiqué et condamné par les théologiens et pour une fois par les philosophes qui étaient leurs alliés dans ce domaine. Mais à partir du moment où on accepte le postulat, tout le reste vient facilement.
Alors, les repères dans le temps, on est en gros fin 8e siècle, jusque, vous me dites, Ahmed Jebar, on est milieu 14e, 15e siècle.
Oh, on peut aller jusqu'au 17e siècle, compte tenu de l'apport des Safavides, par exemple.
Ah oui.
Et même de l'Inde du Nord jusqu'au 18e siècle, compte tenu de la circulation encore de l'astronomie arabo-persane vers l'Inde, vers les communautés scientifiques de l'Inde.
L'on aura au cours de cette émission à répondre, si tant est qu'il me soit possible, vous pourrez répondre à la question qui va et la seule. Et c'est la grande question, comment se fait-il que tout cela a pu connaître une régression par la suite? Mais l'étendue assez large est seconde moitié du 8e siècle jusqu'au 17e, 18e. Et en ce qui concerne l'étendue terrestre, c'est celle de l'empire, ou les empires parfois quand ils coexistaient, islamiques.
Alors, disons, c'est l'espace où va se pratiquer la science. C'est l'espace des conquêtes, en fait. Et donc, ce n'est pas l'espace de l'islam d'aujourd'hui. C'est l'espace qui va, grosso modo, pour imager, de Samarcande, près de la frontière chinoise quand même, hein, aux yeux des musulmans de l'époque, à Saragosse, près des Pyrénées, de Palerme à Tombouctou. Évidemment, seront exclus de fait, parce qu'elles n'ont pas été concernées par la conquête, eh bien, les communautés qui vont s'islamiser en cours de route, comme conséquence de ce qu'on appelle le prosélytisme pacifique des marchands, c'est-à-dire l'islam asiatique, l'Indonésie, Ceylan, etc., qui correspond à la majorité des musulmans aujourd'hui.
Voilà. Alors, passons en revue, pas nécessairement l'effet catalogue, si je puis dire, mais si nous commencions par une quelconque discipline, ce serait les mathématiques qui sont les vôtres, vous les enseignez aussi. Très tôt, il y a eu un engouement, mais pour des considérations peut-être utilitariste, a donné un essor à la recherche mathématique pour les fractions, notamment pour des questions de dévolution successorale, aussi de la trigonométrie, et puis dans d'autres contextes, vous disiez, Ahmed Jebar, que c'est aussi pour l'orientation de la prière pour la demeure de Dieu qui est la Kaaba, qui se trouve à la Mecque.
Oui, oui. En fait, au départ, d'ailleurs, comme dans toutes les civilisations, les sciences sont des outils pour répondre, pour tenter de donner des réponses, plus ou moins satisfaisantes d'ailleurs, plus ou moins précises d'ailleurs, à des demandes, à des commandes de la société ou de certaines couches sociales. Donc, ces réponses, en général, ne sont pas théoriques. Et comme les demandes sont pressantes, donc on va vers les réponses les plus rapides. Donc en général, ce sont des savoirs appliqués. On pourrait les appeler même des savoir-faire, qui permettent de donner des réponses rapides, relativement rapides, pas toujours satisfaisantes dans le sens de la précision, de la rigueur, de l'optimisation quand même de résultats, etc. Mais c'est une étape qui est incontournable dans toutes les histoires des activités scientifiques des autres civilisations qui ont précédé celle de l'islam. Ça, c'est les chercheurs vous le diront. Maintenant, parallèlement, et ça peut être une spécificité de certaines civilisations et pas d'autres. Parallèlement, on n'a pas attendu que se développe pendant un siècle et demi des sciences appliquées pour répondre aux besoins que vous avez très bien évoqués. Mais parallèlement, alors là c'est une dynamique qu'il faut encore continuer à analyser, il y a eu des communautés qui se sont constituées, qui se sont raccrochées d'ailleurs à d'anciennes communautés très cultivées des élites qui existaient avant l'islam, comme les Syriaques, comme, etc., etc., les communautés chrétiennes, juives, païennes, comme les Sabéens, et alors elles vont se raccrocher à l'héritage grec dont d'une grande partie était théorique cette fois, qui ne répondait pas aux besoins. Alors pourquoi ils se sont intéressés à ça? Alors là, ça fait partie encore de la recherche aujourd'hui. C'est pour développer les sciences, ce sont prendre le relais et comprendre ce qu'ont fait les anciens et puis aller plus loin.
Ce que nous aurions appelé de nos jours une sorte de recherche fondamentale.
Tout à fait.
Et la curiosité du chercheur et du savant. Et parce qu'il y avait cet engouement pour la sagesse des Grecs aussi.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, toujours dans le domaine des mathématiques, très tôt, il y a eu un intérêt pour les travaux d'Euclide, d'Apollonius, de Diophante.
Par exemple, vous avez très bien pris les bons exemples, Euclide n'était pas applicable du jour au lendemain. D'abord, son livre le plus important, Les éléments d'Euclide, font 13 chapitres, qui font à peu près plus de 400 propositions, toutes théoriques. Alors, pour les traduire, il a fallu au moins 3 traductions, dont une, en plus une révision par un grand scientifique. Ensuite, il fallait les comprendre, les assimiler, les enseigner. Et alors, pour les appliquer, il aura fallu peut-être un siècle et demi. Donc, ce n'est pas un livre d'application. Le livre que vous avez évoqué de Diophante, c'est encore pire, si j'ose dire, ou encore mieux pour les théoriciens. Eh bien, il n'y a aucune application du 9e siècle jusqu'au 15e siècle des théories qu'il y a dans les arithmétiques de Diophante, ni dans ses livres mineurs. Bien. Alors, Archimède, c'est un autre problème. Archimède est à la fois théoricien, et puis il a été aussi mécanicien, il a été physicien. Il a été ingénieur, puisque... Si on met de côté la fameuse légende
de Syracuse.
De Syracuse, qui a une part de vérité dans la mesure où il était quand même un ingénieur, semble-t-il, un ingénieur militaire. Et donc, il n'aurait pas été tué parce qu'il dessinait des figures géométriques sur le sable. Ça fit rigoler les chercheurs.
Ce qui, plus tard, dit-on, Al-Hasan des Latins, Ibn al-Haytham, voulait vérifier effectivement l'aspect concave des miroirs pour voir si effectivement Archimède avait raison ou pas.
Absolument, absolument. D'ailleurs, la légende n'est pas confirmée. Mais n'empêche que cette légende a créé une dynamique scientifique absolument inimaginable, puisque pendant 2 siècles, sur la demande pressante, je suppose, des militaires de l'époque, des hommes politiques, eh bien, des chercheurs ont été bien financés pour se lancer dans un travail théorique cette fois, mais dans un but d'application, qui sont ce que vous avez évoqué, les miroirs ardents, pour brûler les bateaux ennemis à distance.
Finissons peut-être avec Apollonius et ses coniques.
Alors là, Apollonius, on peut considérer que dans l'état où les scientifiques de l'islam vont trouver la science grecque, c'est le haut du panier. C'est le sommet de la mathématique grecque. C'est à la fois théorique, à la fois avec des applications immédiates et puis des applications potentielles. C'est un livre très difficile, tellement difficile que les premiers qui l'ont étudié se sont cassés les dents. Ce sont les frères Banu Moussa, 9e siècle. Et ils ont dû aller chercher, ils ont eu de la chance, ils sont allés à la recherche d'un commentaire des coniques d'Apollonius. Ils ont fini par le trouver, celui d'Autosius. Et ils ont eu cette phrase que je ne connais pas par cœur, mais qui dit en substance que heureusement qu'il y a des commentateurs dans la science. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a des scientifiques moyens. Parce que s'il n'y avait que les grands scientifiques, les Nobel, les médailles Fields, etc., eh bien peut-être que on n'avancerait pas si vite dans l'application de leur savoir. Alors il disait, Eutocius nous a éclairés, nous a permis de comprendre les coniques d'Apollonius. Parce que ce sont des mathématiques très difficiles.
Vous avez évoqué les frères Banu Moussa, donc les fils de Moussa Chaker, qui les avaient confiés au calife Al-Mamoun de 813 à 833, le fils de Harun al-Rachid, et ils avaient vécu et travaillé à la maison de la sagesse, notamment de Bagdad. Et donc là, leur apport aussi dans les mathématiques fut considérable. Mais Ahmed Jebbar, quelle serait la spécificité d'une mathématique ou des mathématiques au pluriel arabe ou d'expression arabe, notamment avec les nombres amiables, comme ceux de Thébet.
Les nombres amiables, ce sont des couples de nombres qui ont une propriété donnée, je ne vais pas la donner, ça ne va pas ennuyer un peu l'auditoire. Ça fait partie justement de cet aspect application de résultats tout à fait théoriques. Donc ce sont les Grecs qui ont commencé à étudier certaines catégories de nombres. Bon, les plus simples sont les nombres pairs, le nombre impair, les nombres premiers, les nombres parfaits, les nombres figurés, et puis les nombres amiables. Alors sur le nombre amiable, très vite, des astrologues se sont rendus compte qu'on pouvait les exploiter. Un peu comme aujourd'hui, un résultat théorique fait tilt dans la tête de quelqu'un qui est là à l'affût pour essayer de trouver une application. Et évidemment, qui rapporte de l'argent. Et alors, les astrologues, et ça s'est confirmé quand même par des intellectuels du 10e siècle que vous connaissez très bien, je le sais, qui sont les frères, cette fois-ci, les frères de la sincérité, oui, les frères de la pureté, et qui comprenaient bien les mathématiques de leur époque, et qui disaient que, eh bien, les carrés magiques, plus les nombres amiables, eh bien, ça servait, parfois, à résoudre des problèmes d'astrologie. Voilà. En particulier les nombres amiables, ce sont deux nombres qui ont des propriétés qui font que si l'un des partenaires a un nombre et l'autre l'autre, donc on a la chance, ils ont la chance de pouvoir se rapprocher et donc d'unir leur vie et leur destin.
Voilà. Les frères de la pureté ou les frères de la sincérité et les amants de la fidélité, c'est comme ça qu'ils se désignaient. C'est une société secrète de savants. Un jour, nous aurons peut-être à leur consacrer une émission ad hoc parce qu'il y a là un engouement du savoir et ce sont des encyclopédistes avant la lettre. Ahmed Djebbar poursuit comme ça un peu toujours dans le domaine des mathématiques. Il va y avoir un essor qui sera donné aux fractions. Et puis à la trigonométrie.
Alors les deux domaines vont s'appliquer comme réponse à effectivement deux besoins qui sont complémentaires, mais qui correspondent à des pratiques différentes. Les fractions vont se développer parce que un chapitre de la pratique religieuse va se développer. Ce sont la répartition des héritages. Vous l'avez dit d'ailleurs rapidement tout à l'heure. Et donc, la complexification des problèmes d'héritage qui, eux, sont anciens. Tous les peuples ont eu à gérer cette question des héritages. Quand quelqu'un meurt, il laisse, etc., etc. Il laisse, enfin, à condition qu'il laisse quand même un pactole, hein, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Les mathématiques n'interviennent pas. Et donc, il laisse plusieurs fils, des filles, de la belle-mère, etc. Alors, ça se complique beaucoup. Il laisse des esclaves. L'esclave a le bon goût de rester vivant, donc ça peut simplifier les choses. S'il meurt avant, ça devient des problèmes horribles qui aboutissent même parfois à des problèmes résolubles par des techniques qui n'existaient pas au 8e, 9e siècle. Bref, donc les héritages vont pousser les mathématiciens à développer le chapitre des fractions qui existait avant, mais ils vont le développer en tenant compte des progrès d'autres mathématiques, en particulier les progrès de l'algèbre. L'algèbre, c'est une science qui, grosso modo, pour résumer, ne tient pas compte de la nature de l'objet en tant que tel. Si on veut chercher la valeur d'un objet, ben on dit que l'objet est inconnu. Donc on ne cherche pas à savoir ce que c'est, ni quelle est sa dimension, etc. Et donc, à partir du moment où on le met dans une équation et qu'on a la technique pour résoudre l'équation, eh bien on trouve l'objet. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on manipule l'objet sans le connaître. Donc on manipule des opérations, on fait des opérations sur les objets sans les connaître. Ça, c'était une innovation. D'habitude, chez les Chinois, les Indiens, les Grecs, on faisait des mathématiques, d'accord, mais il faut être raisonnable avec des choses que l'on voit, si j'ose dire, ou bien que l'on conçoit. Mais que l'on conçoit lié à des choses concrètes, de la nature. La nature n'est pas très loin dans tout ça. Là, pour la première fois, quelqu'un dit, mais on peut manipuler des objets dont on n'est même pas sûr qu'ils existent à la fin. Parce que si on n'arrive pas à trouver, on dit, ben, le problème est impossible. Alors, donc ça, ce sont les héritages. Elles vont se complexifier sur le plan technique, pas sur le plan théorique. Et elles vont continuer à améliorer leur technique jusqu'au XIIe siècle, puisque nous avons un témoignage d'un grand mathématicien de Séville, qui a vécu à Béjaïa, donc dans le Maghreb central, en Algérie aujourd'hui, qui va développer une nouvelle technique pour aller beaucoup plus vite dans le calcul de la répartition des héritages. Comme c'est une technique mathématique, évidemment, elle va être boudée par les juristes qui n'ont pas la bonne formation en mathématiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la trigonométrie. Alors, la trigonométrie va avoir beaucoup plus de possibilités de se développer que les fractions. Pourquoi ? Parce que la trigonométrie était une discipline totalement nouvelle. Elle va partir de deux concepts. Un concept indien qui est le sinus, qui est la demi-corde, si on prend une corde dans un cercle, et le concept grec qui est la corde tout entière. Alors ce sont deux concepts, en fait, qui caractérisent deux traditions différentes, deux traditions géométriques et mathématiques. L'une indienne qu'on pourrait appeler algorithmique, et qui ne se préoccupe que de calculer, pas de justifier. Je grossis le trait, bien sûr.
Oui, bien entendu.
Et puis l'autre grecque, qu'on appelle pompeusement, surtout dans les salons le soir, hypothético-déductive, et qui exige non seulement que l'on trouve les méthodes pour résoudre les problèmes, mais qu'on justifie la validité de la méthode. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, les premiers astronomes musulmans, alors là, ce sont les astronomes, mais astronomes mathématiciens, vont trouver ces deux outils, ces deux objets, et il y a une catégorie qui va choisir celle des Grecs, donc, pardon, l'outil grec, une autre catégorie, l'outil indien. Pour des raisons essentiellement historiques. Parce qu'on a découvert les textes indiens, paradoxalement, avant les textes grecs, alors que l'Inde était beaucoup plus loin. Et puis, il y a eu une synthèse. Et au Xe siècle, en fait, une synthèse avec élimination. On a considéré que la méthode grecque était un peu plus lourde et qu'il fallait choisir la méthode indienne. Alors, d'où s'est développé le sinus, le cosinus, la tangente, la cotangente, etc., etc. Oui. D'où un chapitre entier qui va apparaître au début du XIe siècle, nous avons des preuves indiscutables, en particulier le témoignage d'Al-Biruni, où on a un chapitre autonome qui contient tous les objets, tous les outils qui permettent de résoudre de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise, beaucoup plus, de manière plus rigoureuse, les problèmes qui se posaient déjà au IXe siècle. C'est la trigonométrie. Alors là, la trigonométrie, on peut considérer que c'est une discipline qui est née en pays d'islam à partir des deux concepts que j'ai évoqués. Donc la discipline est née en islam, l'algèbre est une discipline qui est née en islam, et donc ce sont ces deux choses-là dont on est sûr. Le reste, eh bien, ce sont des prolongements plus ou moins riches des héritages indiens, grecs et peut-être chinois.
Nous sommes sur France Culture, à l'émission Culture d'Islam, en présence du professeur Ahmed Jabbar, professeur émérite de l'Université Lille 1, chercheur et historien des sciences, mathématicien, membre de l'Académie algérienne des sciences et des technologies, et nous parlons toujours des mathématiques en contexte islamique. Poursuivre sur deux sous-disciplines des mathématiques, c'est l'analyse combinatoire et les séries, et peut-être aussi les radicaux, notamment la racine carrée, si vous pouviez nous dire quelques mots là-dessus, et notamment les mathématiciens qui s'étaient intéressés à cela.
Alors, la trigonométrie, elle est née sur la demande des astronomes. Et donc, ce sont les astronomes qui vont faire en sorte qu'un chapitre des mathématiques va se développer. Eh bien, ce sera grosso modo comme cela aussi dans d'autres domaines. Ce sont des préoccupations de linguistes, lexicographes, grammairiens, qui se sont posés des questions qui n'ont rien au départ de mathématiques en apparence, et qui sont l'étude de la théorie qui est sous-jacente, par exemple, à la métrique arabe. La métrique arabe est très logique. Elle est construite selon des structures qui, déjà au IXe siècle, avaient plusieurs siècles. Ce ne sont pas des scientifiques qui les ont inventées. Et ce sont les poètes qui les ont inventés. Et puis ça s'est stabilisé en 15 mètres. Là, la prose, c'est un autre problème. Lorsque les Arabes vont gouverner le monde au nom de l'islam, eh bien, ils vont constater qu'il fallait enseigner la langue arabe. La langue arabe ne s'enseignait pas chez les Arabes. Elle s'inculquait de la maman à l'enfant. Mais pour enseigner à un étranger, entre guillemets, c'est-à-dire un non-arabe, ben, il faut, ça va se faire par l'écrit. Et qui dit écrit, dit les règles. La langue, les règles de l'écriture, et les règles de la rédaction et de l'expression. Et donc, sont développées des disciplines nouvelles. La grammaire, la morphologie, la lexicographie, les débuts de la linguistique. Et évidemment, donc, cette lexicographie va entraîner une préoccupation majeure qui est la fabrication des dictionnaires. Et c'est à partir de là que on a commencé à se poser, sans s'en rendre compte, les premiers problèmes de combinatoire que vous avez évoqué très justement. Et de là, ben, il y aura toute une histoire de la combinatoire jusqu'à la fin du XIIe siècle où on va trouver tous les théorèmes qui sont des réponses aux questions posées à la fin du VIIIe siècle par le grand linguiste Al-Khalil ibn Ahmad. Voilà, ça c'est pour la combinatoire. Alors on peut le dire grosso modo pour toutes les autres disciplines. Souvent, ce sont des préoccupations extérieures aux sciences dures qui vont booster les sciences dures. Quand c'est possible, bien sûr. Parfois, ça va stagner. Vous voyez, pour la combinatoire, ça a stagné quand même un siècle ou deux. Puis ensuite, hop, ça a démarré, et voilà.
Pour la racine carrée, le radical, le symbole même, serait pour certains la lettre djim en langue arabe qui dit djidr, c'est-à-dire la racine.
Alors là, pour tout ce qui est racine, radicaux, de manière générale, il y a un précédent historique. Sur le plan uniquement du concept, la découverte de la racine, c'est ce qu'on appellera plus tard le scandale des irrationnels, c'est le fait que la diagonale d'un carré ne peut pas être mesuré par le côté du carré. Ou la diagonale d'un rectangle, d'ailleurs. Et quelle que soit, d'ailleurs, la diagonale, quel que soit le côté, on peut pas mesurer. Mesurer, sous-entendu, soit en nombre entier, soit en fraction. On commence à accepter les fractions. À partir de là, va se développer toute une théorie de ces nombres bizarres, qu'on va appeler les nombres irrationnels. Au sens, en arabe, d'ailleurs, on va les traduire en non prononçables. Parce que le mot rationnel veut dire aussi prononçable ou non prononçable. Donc, il y avait les nombres rationnels, entiers, fractions, et les nombres irrationnels. Et ces nombres irrationnels, ben plus on avançait dans le temps, plus les mathématiciens grecs en découvraient. Alors, ils en découvraient des tas, pratiquement tous les jours. Alors, à un moment donné, quand il y a un développement quantitatif d'un savoir, fatalement, les scientifiques s'arrêtent et ils disent « Stop, il faut faire le bilan. » Et il faut théoriser. Et donc, le premier qui a théorisé ce qu'on appelle les nombres irrationnels, enfin, on les appelle chez les Grecs les grandeurs incommensurables, c'est Euclide. Quand je dis il les a théorisés, il a synthétisé ce qui a été fait avant lui et ce qu'il a fait lui aussi comme contribution originale. Eh bien, c'est le livre 10 parmi les 13 livres des éléments d'Euclide. C'est pas par hasard, c'est le livre le plus gros, qui contient le plus de propositions, plus d'une centaine de propositions, et qui contient les démonstrations les plus difficiles. Voilà.
Peut-être avant de clore le chapitre des mathématiques, un mot, parce que nous ne pouvons pas faire l'économie de l'évoquer, l'algorithmus des latins, al-Khawarizmi, et son fameux ouvrage Al-Jabr wal-Muqabala, c'est-à-dire l'algèbre, enfin restauration ou contrainte, ou, et puis comparaison, c'est une des traductions, mais comme on n'a pas pu le traduire, on a gardé le mot.
Alors en fait
c'est plus compliqué
que ça. Il me semble que c'est plus compliqué que ça, oui, oui. En fait, celui qui a, il y a eu 3 traductions des livres d'algèbre. Une des traductions a été faite par le plus grand traducteur de l'arabe au latin qui ait connu l'Europe, c'est Gérard de Crémone. C'est pas n'importe qui. Je dis à mes étudiants, pour les rendre plus humbles aujourd'hui, parce qu'ils croient maîtriser la langue arabe, parce qu'ils sont descendants d'arabes ou d'arabophones, je leur dis, écoutez, ça fait 35 ans que je fais de la recherche, je me considère comme bilingue, je me considère comme maîtrisant suffisamment l'outil que j'utilise pour faire de la recherche. Eh bien, Gérard de Crémone, au XIIe siècle, était plus fort que moi en arabe, aujourd'hui citoyen de 2016. Et eh bien lui, il n'a pas traduit les deux mots algèbre et muqabala, mais en fait il connaissait le sens. Là, c'est un problème plus de respect de la terminologie produite par des savants d'une civilisation. Quand un savant invente un produit, s'il lui colle un nom, le nom reste.
Oui, professeur Djebbar, d'aucuns disent, mais c'est vous qui avez sûrement raison, que c'est parce que le mot algèbre avait été polysémique, il disait à la fois contrainte, restauration, comme il ne pouvait pas le rétracter en un seul sens, il lui a laissé, non seulement pour rendre hommage à son initiateur, mais aussi pour ne pas le circonscrire uniquement dans un seul sens.
À mon avis, je pense que cette explication fait partie de ce que j'appelle, moi, les explications a posteriori.
Oui.
Voilà. Par contre, pour revenir à votre question, très pertinente aussi, c'est le fait que, d'où vient le mot algorithme? Mais il vient pas de l'algèbre. Il vient de son deuxième livre. Il vient de son deuxième livre parce que l'algèbre, figurez-vous, a été moins populaire qu'un autre livre qui est plus petit, qui est moins prétentieux, qui n'a aucune innovation puisqu'il ne fait que reprendre les outils indiens. C'est le livre sur le calcul indien. Ce livre, nous ne l'avons pas en arabe. Il est perdu jusqu'à maintenant, alors que nous avons plusieurs copies de l'algèbre. Eh bien, il est en latin. Heureusement, nous l'avons en latin. Et puis, je pense une partie en hébreu. C'est dans ce livre qu'il explique les algorithmes des arithmétiques. L'addition, soustraction, multiplication, division et, justement, extraction de racines carrées. Et comme les algorithmes sont très visibles, là, parce que nous, en tant que mathématiciens, on dit, l'algorithme le plus beau, c'est en algèbre. Mais non, en fait, l'algorithme qui va être le plus populaire, les algorithmes les plus populaires, ce sont ceux du calcul. Parce qu'ils sont plus accessibles aux marchands. Les marchands n'ont pas besoin d'algèbre pour faire du business. Ils ont besoin surtout de l'addition, soustraction, multiplication, division. Multiplication beaucoup plus que soustraction, bien sûr.
Pour eux, bien entendu.
Bien entendu. Ce livre étant plus populaire, donc son auteur va être appelé Algorithmus, mais en fait, ce n'est pas parce que le mot est dans le livre, C'est tout simplement parce que le khawarizmi est originaire d'une région d'Ouzbékistan aujourd'hui qui s'appelle khawarizm.
Bien entendu.
Voilà.
À chaque fois que j'essaye de passer à une autre discipline, l'engouement que vous mettez à parler des mathématiques me pousse à vous dire, alors cette fois-ci vraiment... Quelques noms, parce qu'ils sont très méconnus, voire insoupçonnés. Les Ibn Khunfoud, les Qalasadi, les Marrakouchi. Qu'ont-ils fait, ces trois mathématiciens en tout cas, et qu'est-ce qui les caractérise?
Là, vous avez choisi des mathématiciens de l'Occident musulman.
De l'Occident musulman, alors, délibérément.
Nous sommes sur France Culture. Pour être œcuménique, parmi les grands mathématiciens, eh bien, il y a les frères Benou Moussa qui sont musulmans, Thabit Ibn Qurra qui est païen, sabéen. Il y a
qui se serait pour certains islamisé à la fin de sa vie, mais
oui,
c'est pas sûr.
C'est pas important. Il y a Samuel Maghribi qui est juif d'origine juive, qui s'est islamisé, mais c'est son affaire aussi, comme vous le dites si bien. Il y a des Berbères du Maghreb, il y a des Persans, Omar Khayyam, le grand poète mais grand mathématicien. Il y a des Ouzbeks, Al-Khawarizmi. Il y a des Arabes, Ibn al-Haytham, le plus grand spécialiste de l'optique du Moyen Âge. Eh bien, il est irakien. Il a vécu en Égypte. Il y a des Égyptiens, il y a des Maghrébins, des Andalous. Bref, il y a aussi des mathématiciens de l'espace africain, à partir du 14e, 15e siècle. Bref, tous les espaces qui ont été gouvernés par des pouvoirs musulmans après la conquête ont donné peu ou prou des hommes de science. Certains ont atteint le niveau international, et d'autres ont atteint un niveau juste en dessous, d'autres font un peu la catégorie des couches moyennes, et les autres, ce sont les enseignants. Alors, Ibn Khunfoud est un bon mathématicien du XIVe siècle, du Maghreb central. Al-Qalasadi, c'est le dernier mathématicien de l'Espagne musulmane, il est mort en 1485, et donc, on ne dit pas que c'est un très grand, mais comme c'est le dernier, il est très très important dans l'historiographie donc de cette discipline. Vous avez nommé un autre. Alors, Al-Murakushi, alors il y a Al-Hassan Al-Murakushi, qui est un grand astronome. Alors, il a une particularité, c'est qu'il est vraiment citoyen du monde, lui. Ben, en fait, on était citoyen du monde en pays d'islam, dans le cadre de grands territoires musulmans, et parfois même, on allait au-delà, comme Ibn Battuta, qui est allé jusqu'en Chine. Eh bien, lui, il est né à Marrakech, ça c'est indiscutable, puisqu'il y a son... il est marqué. Mais en fait, il a publié ses œuvres les plus importantes au Caire, et il est mort au Caire. Et puis, il y a un autre, Al-Marrakouchi, c'est Ibn al-Banna. Alors, lui, c'est le dernier grand du Maghreb, parce que c'est le dernier chercheur, parce qu'il a trouvé des résultats en combinatoire précisément. Voilà. Donc il s'appelle, lui, Ibn al-Banna al-Marrakouchi. Alors pour les distinguer, on revient plutôt à leur nom d'origine.
Alors cette fois-ci, nous passons vraiment à l'astronomie. Alors on rapporte qu'il y a un ouvrage récent contemporain intitulé « Le livre qu'on n'a jamais lu » et l'allusion est faite au livre de Copernic, paru en 1543, une parution post-mortem, puisque c'est la même année du décès de Copernic, dans lequel il reconnaît sa dette pour 5 astronomes musulmans. C'est le fameux De Revolutionibus Orbium Celestium, de la révolution des sphères ou des orbes célestes. Et ces 5, en réalité, ils ne sont pas tous astronomes, et je le dis sous votre contrôle, Ahmed Jebbar. Le premier, c'est Al-Battanus, je le latinise délibérément. Thabit ibn Qurra, le Thébet des latins. Averroès, mais il l'a cité là comme astronome. Il y a Azarkiel et Alpetrijus. Donc là, il y a d'autres astronomes aussi. Donc quel est l'intérêt et l'engouement des astronomes musulmans donc pour la voûte céleste, toujours étoilée au-dessus de leur tête quand ils vivaient dans des étendues désertiques notamment? Et quel est l'apport, puisque la science est cumulative, par rapport à l'astronomie ptoléméenne ou ptolémaïque?
Alors, il faut bien préciser que jusqu'à l'avènement de la lunette en Europe, à l'époque de Galilée, l'astronomie pratiquée par tous les peuples, par toutes les élites de ces peuples, est une astronomie d'observation, une astronomie de mesure, une astronomie de calcul, et une astronomie de description de ce qu'on appelle les configurations du ciel. Et donc, ce n'est pas une astrophysique. C'est très très important de le dire. Première remarque. Deuxième remarque, pour revenir à Copernic, si on met de côté son apport qui l'a rendu célèbre, qui est l'affirmation de l'héliocentrisme. Tout le reste de son travail s'inscrit dans le prolongement d'une astronomie gréco arabe. Arabe au sens qu'on a défini tout à fait au début de l'émission, et grec au sens, évidemment, ptolémaïque, et puis toute l'école astronomique grecque. Bien. En fait, elle est aussi indienne parce que les musulmans, les premiers astronomes musulmans, étaient à la fois ont pris et assimilé, puis synthétisé, la tradition grecque et la tradition indienne, qui était très calculatoire. Et donc, ce n'est pas étonnant, à ce moment-là, que dans ses livres, Copernic cite ou fait référence à des grands noms de l'astronomie dite arabe. Mais lorsqu'on parle de Copernic depuis quelques décennies chez les chercheurs, en particulier les chercheurs américains, ce n'est pas pour réaffirmer cela, parce que c'était connu chez les spécialistes. C'est pour révéler autre chose, c'est que Copernic ne parle pas de quelque chose qui l'a influencé, qui n'est pas lié à l'héliocentrisme, mais qui révèle qu'il a connu des textes arabes plus tardifs. Parce que ceux que vous avez cités sont du 9e, 10e, 11e siècle. Or, il a connu des textes du 14e siècle.
Et le fameux couple Al-Tusi qui l'a aidé.
Exactement.
Alors ça, vous nous l'expliquez
alors,
mieux,
rapidement.
Je vous en prie. Oui.
C'est parce que la grande innovation dans l'étude des modèles planétaires, parce qu'il y a l'aspect appliqué, technique, que j'ai évoqué tout à l'heure, mesure, calcul, etc., observation, instrumentalisation, puis il y a l'aspect théorique. L'aspect théorique, il est grec d'origine, et il va devenir arabo-musulman, c'est la modélisation de ce que l'on observe. Et c'est une modélisation mathématique, géométrique. Alors cette modélisation, les astronomes des pays d'islam sont restés au modèle de Ptolémée pendant des siècles. Puis, cette modélisation a été contestée de plus en plus vigoureusement par des astronomes de très haut niveau, en particulier Az-Zarqali que vous avez cité, en particulier Ibn al-Haytham, qui est un peu avant lui, mais qui est en Égypte, Al-Bitruji en Andalus. Donc il y a eu une offensive, et puis en Orient aussi. Et à partir de là, il y a eu une décision, une sorte unanime, de chercher un autre modèle, un peu comme les physiciens aujourd'hui cherchent la théorie unifiante.
Et Ibn al-Haytham al-Hazan écrit son ouvrage « Les doutes sur Ptolémée ».
Absolument, sauf qu'il n'apporte pas la solution. Il n'a pas eu le temps. Et donc ces doutes sur Ptolémée, parfois vous savez, les questionnements, les critiques et les doutes sont aussi importants que la découverte qui est l'aboutissement de ces doutes. Et donc, ces critiques d'Ibn al-Haytham, qui n'est pas n'importe qui, vont stimuler le travail. Alors, le premier qui va trouver un nouveau modèle, qui sera une rupture, à la fois sur le plan théorique, mais sur le plan aussi mathématique, par rapport au modèle grec, c'est Nasir ad-Din al-Tusi, mort en 1274. Il y a plusieurs Tusi, c'est pour ça qu'il faut toujours donner leur prénom.
Oui.
Alors, ce monsieur était vivait dans la fameuse forteresse d'Alamout, dirigé par ce qu'on appellera plus tard, ce sont leurs ennemis, qui les ont appelés les assassins. En fait, lui, il vivait tranquillement, il écrivait ses meilleurs livres, il les a écrits là-bas d'ailleurs. Et puis, apparemment, il n'a jamais été inquiété, jusqu'au moment où le chef mongol qui a occupé Bagdad l'appelle. Évidemment, il va le convaincre pour construire le fameux observatoire de Marara. Et donc, At-Tusi va concevoir de nouveaux modèles planétaires, basés sur le fameux couple d'At-Tusi que vous avez évoqué. Je n'ai pas la peine de le détailler. Eh bien, cette idée va circuler. Elle va permettre de mettre de côté les modèles de Ptolémée. Elle va être améliorée par des astronomes, en particulier Ibn Shatir, astronome de Damas, 14e siècle. Et ce sont les explications d'Ibn Shatir qui vont arriver en Italie, comme par hasard, au moment où Copernic était en Italie. Et voilà où se fait la jonction. Donc il a eu connaissance des derniers apports de l'astronomie arabe. Mais cela n'a rien à voir avec son apport dans l'héliocentrisme, il faut le préciser.
Bien. Même s'il ne faut pas chercher nécessairement une filiation directe, il y a cette idée que le fameux couple Al-Tusi l'a aidé à passer d'un mouvement circulaire à un mouvement linéaire et vice-versa, et peut-être qu'il a eu une intuition de ce point de vue-là, mais nous ne cherchons pas nécessairement, ce matin en tout cas, à trouver des filiations qui n'existent pas. Un mot, Ahmed Jobbar, peut-être sur les fameuses tables, les al-zij, qui sont persanes. Comment étaient-elles à la fois élaborées, avec beaucoup de patience, puisque nous n'avons pas la puissance de calcul que nous avons maintenant avec les ordinateurs, mais là, il y avait une sorte de patience extraordinaire chez à la fois les astronomes et leurs assistants qui les aidaient à calculer.
Eh bien, leur travail était tellement minutieux, tellement précis, tellement énorme, quantitativement, que aujourd'hui, pour pouvoir étudier le contenu de ces tables, et pouvoir les analyser correctement et faire des études comparatives, eh bien, on ne peut pas se passer de l'informatique. À cause de la masse de données qui interviennent dans la réalisation de ces tables. Alors, ces tables concernent beaucoup, beaucoup de choses. Elles concernent d'abord, essentiellement, ce qui intéressait les astronomes et les astrologues, le mouvement des objets célestes. Or, les objets célestes qui les intéressaient le plus, ce sont les planètes visibles. Parce que les étoiles, on savait, grosso modo, elles se déplaçaient toutes de la même manière, bien, mais les planètes visibles avaient des caprices. Et donc, chacune avait son, précisément, d'où les modèles, d'ailleurs. Il y a le modèle de la Lune, le modèle de... etc., etc. Modèle du Soleil, de... Et donc, il fallait calculer leur mouvement et surtout pour pouvoir prévoir leur conjonction. C'est-à-dire le moment où elles se rencontrent. Parce que là, il y a 7 planètes visibles. À partir du centre qui est la Terre, hein, parce qu'on part du géocentrisme, bien sûr, classique. À partir de là, eh bien, toute conjonction est un événement majeur pour l'astrologue et pour ses clients, bien sûr. Parce que ça peut prédire l'avenir des groupes, des individus et puis surtout des pouvoirs politiques. Et c'était un instrument politique. Et donc là, il fallait avec précision donner des tables pour le mouvement des planètes chaque année. Mais aussi, on a des tables pour la vie de tous les jours. On a les tables pour déterminer le calendrier lunaire. Parce que les musulmans ont eu le bon goût, si j'ose dire, pour faire un jeu de mots facile, de ne pas accepter les calendriers qui existaient déjà. Alors qu'ils se sont décarcassés, il aura fallu utiliser la trigonométrie pour faire, donc, élaborer un nouveau calendrier très difficile, en particulier pour lequel il est très difficile de prévoir l'avènement du croissant de lune. Et puis ça, le départ de la pleine lune.
Alors, vous le dites si bien, Jabbar, nous sommes à la veille, justement, de l'observation du croissant lunaire quant à l'observance du jeûne du mois de Ramadan. Donc, nous sommes sur France Culture, toujours avec Ahmed Jabbar à l'émission Culture d'Islam. Je rappelle, vous êtes professeur émérite à l'université de Lille 1. Vous êtes mathématicien vous-même, historien des sciences, chercheur dans tous ces domaines et vous êtes académicien, membre de l'Académie algérienne des sciences et des technologies au pluriel. Nous allons passer, si vous voulez bien, Ahmed Jabbar, à cette fois-ci, à la science des procédés ingénieux, la fameuse mécanique. C'est pas uniquement pour des aspects ludiques, pour les automates, mais aussi pour les norias, les clepsydres, etc.
Absolument. Alors là, le nom même de la discipline est grec.
Oui.
C'est une traduction du mot grec qui est procédé ingénieux. Donc, ces procédés ingénieux.
Parce que une machine, mécanée, c'est.
Absolument.
Pour dire un complot contre quelqu'un, c'est une machination.
Voilà, si vous voulez. Donc, déjà, la terminologie est grecque, mais aussi l'origine est grecque. Enfin, du moins, l'origine des travaux arabes qui vont venir après. Des travaux des savants des pays d'islam. Nous savons que, dès le départ, ils ont cherché à connaître ce qui a été fait par les Grecs. Donc Archimède, Héron, et puis Philon de Byzance. Alors, ce sont les trois sources. Alors, ils ont trouvé certains livres, ils n'ont pas trouvé d'autres. Mais à partir d'une bonne compréhension de tous les systèmes, de tous les mécanismes qu'il y a dans les livres qu'ils ont pu traduire, ben, ils ont compris. Ils sont allés, donc ils partent de la base grecque, là c'est exclusivement grec, et ils vont développer une mécanique avec plusieurs orientations. Il y aura l'orientation ludique que vous avez bien évoquée, qui s'est développée uniquement par la volonté des princes, des cours, des califes, parce que ça les amusait d'avoir des automates. Voilà. Et puis ils voulaient faire comme les empereurs byzantins, etc. etc.
Le Basilius.
Bien sûr, voilà, c'est normal, c'est une imitation. Non. La mécanique utilitaire. Mécanique utilitaire, il y a plusieurs mécaniques utilitaires. Il y a la mécanique militaire. C'est celle qui a intéressé le plus le pouvoir au départ. Et là, il y a eu aussi des progrès, je ne rentre pas dans les détails. Il y a eu la mécanique hydraulique. Alors là, c'est la mécanique qui va être la plus développée, qui va continuer à préoccuper les mécaniciens jusqu'au XVIe siècle, à Istanbul. Pourquoi ? Parce qu'une des constantes des pays d'islam, même dans la partie tempérée, eh bien, c'est la gestion de l'eau. C'est d'abord la découverte des sources, c'est comment récupérer l'eau, comment ensuite le préserver, le garder, ensuite comment l'acheminer.
Oui, et les techniques d'irrigation.
Et les techniques d'irrigation. Et comment le distribuer aussi dans les villes. Et tout cela, c'est un savoir très très complexe, qui n'est pas un savoir dit théorique. C'est un savoir, disons, un savoir-faire, qui va se développer. Et ensuite, il y a une autre mécanique qu'on oublie souvent, c'est la mécanique astronomique. L'astronomie a permis de développer des dizaines et des dizaines d'instruments astronomiques qui permettent de faire toutes les mesures dont avaient besoin les astronomes. Alors, il y a les astrolabes qui sont connus, qui sont d'origine grecque, mais ils vont être d'abord fabriqués,
la
vont être
améliorés.
Il y a la sphère armillaire avant. Il y a d'abord tout simplement le globe céleste. Ensuite, la sphère armillaire. Ensuite, l'astrolabe sphérique. Ensuite, l'astrolabe planisphérique. Là, c'est d'origine grecque, ils vont l'améliorer. Ensuite, ils vont inventer en Andalous, en Espagne, à Cordoue, à Tolède, c'est Az-Zahrali que vous avez évoqué, l'astrolabe safiha, l'astrolabe universel, qui est en fait le résultat d'une volonté d'optimiser l'instrument. Et puis, il y a des dizaines d'autres astrolabes qui ont été parfois des quarts d'astrolabe, parfois des astrolabes en bois, des astrolabes en carton, tout ça parce qu'il y avait une très grande consommation des citoyens. Si vous voulez le détail, il y a un chercheur éminent, plus jeune que moi, qui est le docteur François Charette, un Canadien, qui a fait une thèse superbe, qui a été publiée, sur tous les instruments qui ont été décrits par un grand astronome du XIVe siècle et qui reprend ce qui a été inventé avant lui. Voilà. Et puis enfin, un dernier chapitre de la mécanique, on l'oublie souvent, eh bien, c'est la mécanique horlogère. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'éclipsydre, mais pas seulement l'éclipsydre. Il y a des tas de mécanismes, ils ont inventé des choses absolument extraordinaires. Alors, il y a des petites horloges, des moyennes horloges, et surtout des horloges géantes, qui étaient à la fois ludiques, à la fois esthétiques, et à la fois utilitaires.
Bah, Ahmed Jabbar, on va passer peut-être... Alors, pour l'instant, appelons-la alchimie, donnera lieu par la suite à la chimie. Peut-être que ça remonte déjà au Geber des Latins, à Jabir ibn Hayyan. Et là aussi, il y a une continuité, un héritage enrichi qui vient des Grecs et des Byzantins. Et puis, l'alchimie arabe connaîtra aussi un essor.
D'abord, une petite précision. Pour les hommes de science, spécialistes de la chimie et les biobibliographes, et les historiens des sciences d'avant, pour les Arabes, il n'y a qu'un mot pour dire chimie. C'est al, c'est un article.
Oui.
Al-kimia. Bon, l'origine a été discutée. Est-ce qu'elle est grecque? Est-ce qu'elle est égyptienne? Est-ce qu'elle est... Bon, c'est pas notre problème aujourd'hui. Il y a peut-être un peu de tout. Mais toujours est-il que...
Il y a Zosim et Marie. Pour oui. Le bain-marie, le four Zosim.
Voilà, alors. Voilà. Donc, ça peut être égyptien. Toujours est-il que, là aussi, ils vont partir d'un héritage ancien. Mais cet héritage n'est pas seulement grec, cette fois-ci. Il est grec, il est égyptien, et il est local. Local, quand je dis local, c'est quand c'est le croissant fertile. Et donc là, c'est un rassemblement de savoirs, de savoir-faire, et qui va être d'abord assimilé, et puis ensuite qui va être enrichi. Par exemple, c'est grâce aux travaux de chimistes du IXe siècle que l'on a préservé, figurez-vous, ce qu'a écrit ou ce qu'aurait écrit en chimie, non seulement Marie que vous venez d'évoquer très justement.
Marie la Juive.
La première femme. Les Arabes ne l'appellent pas la même Marie la Juive, ils l'appellent Marie, tout court. Et puis surtout, Cléopâtre.
Oui. Je parle de Marie, c'est d'elle qu'on parle lorsqu'on évoque le bain-marie.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Et donc là, ils ont préservé cet apport et ils l'ont enrichi jusqu'au XIVe, XVe siècle. Mais ils ont toujours parlé uniquement de alchimia. Comme le al n'est qu'un article, ça veut dire la chimie. Pourquoi ensuite on a séparé chimie et alchimie? Mais ça, c'est le travail des Européens. Ça ne concerne pas la grande tradition gréco-égypto-arabo-musulmane. Les Européens, à partir du moment où arrive le XVIIe, XVIIIe siècle, où des progrès qualitatifs vont être enregistrés en chimie, entre parenthèses, chimie européenne, qui, à 100%, a été totalement construite sur l'apport des traductions des livres de chimie de l'arabe au latin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Halleux, qui est l'un des grands spécialistes, le plus grand spécialiste de l'histoire de la chimie médiévale. Et il est professeur au CNRS de Belgique. Et donc, mais à partir du moment où l'Europe va s'orienter vers un développement qualitatif indiscutable, en particulier en chimie au XVIIIe siècle, eh bien, il y a un discours nouveau qui va apparaître pour bien montrer qu'il y a une chimie nouvelle. Comment distinguer la chimie nouvelle, qu'on appellera plus tard la chimie des molécules, etc., etc. Avant, ce n'était pas les molécules, c'était le phlogistique. Bien. Mais déjà, avec le phlogistique, il y avait un saut qualitatif. Comment distinguer, sur le plan culturel, si vous voulez, sur le plan de la classification, la chimie d'avant et la chimie d'après? Alors, on a parlé de l'alchimie avant et de la chimie après. Mais c'est une question de discours.
C'est vrai que nous ne sommes pas et nous n'avons pas le temps de le faire, nous ne sommes pas appesantis sur la médecine, plus votre domaine de recherche et de prédilection, ce sont les mathématiques. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire quelques mots sur la philosophie et notamment sur les philosophes et linaisons d'expressions arabes qui se sont intéressés comme néoplatoniciens à l'apport à la fois d'Aristote et tout particulièrement, mais pas uniquement. Et peut-être si vous pouviez aussi nous dire quelque chose sur la médecine.
En tant que non spécialiste de l'histoire de la médecine et de l'histoire de la philosophie, je peux dire à partir des lectures de mes collègues et de mes maîtres que la médecine d'abord a été considérée comme, disaient les Grecs, un art et non pas une science. C'est en pays d'islam qu'elle va avoir le statut de science. À un moment donné, on voit chez les bibliographes la terminologie « science de la médecine ». Comme d'ailleurs l'algèbre. L'algèbre n'était pas considérée comme une science, c'est un art. Et ensuite, on va l'appeler, à partir d'Ibn Khaldoun, un peu avant peut-être, la science de l'algèbre. Bien. Parce que ces classifications viennent des Grecs et ils sont très minutieux dans leurs classifications. Ils avaient des raisons épistémologiques, philosophiques, etc. Donc pour la médecine, il faudrait des émissions entières avec des spécialistes pour parler de l'apport de la médecine, d'abord de la préservation de la médecine grecque, de la préservation d'une partie de la médecine indienne, parce que 20% de la médecine, à la base de la médecine arabe, il y a 20% venant de l'Inde, et 80%, parfois même 100% pour certains ouvrages, certains chapitres, venant des Grecs.
Oui, et donc, Hippocrate, c'est dans le prolongement. Galien, Dioscoride.
Absolument. Dioscoride pour la pharmacopée, oui. Hippocrate, Galien et les autres pour la médecine, mais surtout, donc, le maître de la médecine arabe, c'est Galien. Et personne ne le conteste. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on mettra plus tard, les Européens mettront au même niveau Galien et Avicenne. Pour un musulman de l'époque, c'est une hérésie. Les Européens sont hérétiques, parce que le premier, ce n'est pas Ibn Sina, malgré le fait qu'il fût musulman. C'est Galien. Bien. Et donc, la médecine, c'est tout un champ de savoir très très important. Elle a permis la préservation de la science grecque, et elle a permis quelques apports. Bon, les plus connus, c'est un peu de chirurgie, la découverte de la petite circulation du sang, la découverte de quelques éléments donc de la morphologie de l'individu, et puis surtout, un des apports de la médecine arabe, c'est la médecine hospitalière. Et ça, il faut encore d'autres recherches pour essayer de... L'un des maîtres de la médecine hospitalière, c'est Abou Bakr al-Razi.
Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Ahmed Jabbar. C'était Culture d'Islam par Ghalib Benchir. Nous avons reçu aujourd'hui Ahmed Jabbar, l'historien des sciences, le mathématicien, le chercheur. Merci pour toute cette passion que vous nous donnez. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Dominique Campetissa. La prise de son est assurée par Claude Nior et la réalisation est toujours assurée par Franck Lilin.